Bonjour, bienvenue dans l'émission. La parole est à vous avec le thème de l'environnement. Donc, c'est Jean-Joseph Magdia. Aujourd'hui, pour poursuivre un petit peu ce qu'on a déjà esquissé l'année dernière à travers le rôle du carbone dans notre environnement, le rôle de la forêt comme justement possible stockage de carbone. Donc aujourd'hui, notre invité est Marc Benoît, que je vais laisser se présenter.
Bonjour à tous. Donc Marc Benoît, je suis agronome, donc je m'occupe des conditions dans lesquelles, dans les Vosges et ailleurs, nos sols sont utilisés, ont été transformés par l'agriculture. Et je suis maintenant retraité après 42 ans de travail à l'Institut national de la recherche agronomique.
Dont une partie à Mirecourt.
Dont la plus grande partie fut effectivement à Mirecourt après 6 ans à Versailles. Mais l'essentiel de mon activité professionnelle fut agronome à Mirecourt.
Voilà, donc du coup, quand on a fait l'émission sur la forêt avec Hubert Voiry, on a dit effectivement la forêt peut piéger une partie du carbone. En tout cas, c'est un fort stockage de carbone, mais il y a aussi les sols et pas seulement les sols forestiers. Donc du coup, d'où l'idée de t'inviter aujourd'hui pour parler un petit peu de ces sols. Les sols qui parfois sont un peu maltraités, puisque actuellement, malgré tout un tas, les sommets de la terre et compagnie, donc il y a toujours de la déforestation, dont on est en partie responsable par notre consommation. Et puis, il y a aussi donc des sols qui continuent à être imperméabilisés, les villes continuent de s'étendre, puisque donc en plus la réglementation zéro artificialisation des sols est terminée maintenant, je crois qu'elle a été abandonnée.
Disons qu'elle a été suspendue. Ralentie fortement.
Voilà. Voilà. Donc je te laisse la parole.
Oui, alors les sols ont deux dimensions que je vais préciser tout de suite. Les sols ont déjà une dimension complètement naturelle qui échappe totalement à nous les humains et aux autres espèces vivantes dans la nature, qui est liée à la géologie. Alors, si je prends les Vosges, et je vais prendre quelques petites régions des Vosges pour illustrer cela, il n'y a aucun rapport entre un sol formé sur des granites de la montagne vosgienne avec un granit qui se dégrade en arène granitique, qui fait des gros blocs, mais aussi qui fait du gros sable. Mais ça n'a rien à voir avec les sols que je connaissais très bien à Mirecourt, dans la plaine des Vosges, donc la région du plateau Lorrain, qui sont formés sur une argile du Kuiper, mais c'est une argile remarquable, quoi. Elle passe de la poterie malaxée à la brique en très peu de jours. Et si je continue le petit voyage vers l'ouest, les sols formés sur les calcaires du Kiméridien au-dessus de Neufchâteau, on est sur une petite dalle calcaire. En dessous, on a un vrai petit karst. On a des sols très superficiels avec des cailloux de calcaire partout. Et ces trois types de sols, pour reprendre rien que des sols très proches de chez nous, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et la deuxième dimension, donc ça c'est la dimension naturelle, et elle restera longtemps présente. Enfin, je veux dire, c'est pas demain que les sols granitiques de la montagne vosgienne vont ressembler aux sols calcaires du dessus de Neufchâteau. Et en plus de cette dimension donc complètement naturelle, qui se cale sur des aires géologiques, on a les dimensions humaines. Et donc, je reprendrai ça tout à l'heure. Là, par contre, on peut y faire quelque chose. C'est-à-dire que nous, les humains, on peut, dans un même sol, mener une prairie permanente dans laquelle on a implanté des haies pour protéger les animaux, y compris avec des arbres de haut jet. Ou alors, on peut conduire la même parcelle en culture annuelle avec labour profond. Et sur le stock de carbone dans ces deux situations, on n'aura vraiment pas les mêmes résultats.
Voilà, il faut dire que donc l'homme, effectivement, je parlais tout à l'heure de l'artificialisation des sols ou des déforestations, mais l'homme est responsable de beaucoup de dégradation des sols. Et d'ailleurs, la dégradation des sols a mis fin à certaines civilisations, donc du fait de l'urbanisation, la démographie qui a fait qu'on a surexploité certains sols qui sont ensuite devenus désertiques et qui ont amené le déclin. On parle de l'île de Pâques, on parle de... En Asie mineure, au Moyen-Orient en particulier, mais aussi ailleurs. Donc le rôle de l'homme dans la gestion des sols est très important sur une grande partie de la planète, puisque effectivement Homo sapiens a envahi la planète entière et a exploité de manière différente les sols un peu partout, parfois de manière en harmonie avec la nature, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais parfois, quand les conditions étaient favorables, ça a amené souvent une augmentation de la démographie locale avec une surexploitation derrière qui a amené une dégradation.
Et ces faits historiques sont vraiment importants. Alors, je vais prendre trois exemples. Un premier exemple, un peu éloigné de chez nous, qui ressemble au territoire que tu viens d'évoquer. Donc, c'est un texte de Platon. Donc, petite lecture de Platon. Je ne la fais pas en grec, ce sera plus facile. Donc, il y a en Attique des montagnes qui maintenant ne nourrissent plus que des abeilles, mais qui naguère étaient encore revêtues de beaux grands arbres dont le bois servait à couvrir les plus grands édifices. Les charpentes taillées jadis dans ces arbres existent encore. Il y avait aussi dans le pays beaucoup de nobles arbres fruitiers et de riches pâturages pour nourrir le bétail. La pluie qui tombait chaque année ne s'écoulait pas comme maintenant sur des sols dénudés pour aller se perdre dans la terre. La terre la recevait dans toute son abondance et la conservait dans la glaise imperméable et l'eau qui s'infiltrait dans les collines était restituée dans les vallées sous forme de sources et de rivières qui procuraient partout de l'eau à profusion. Les monuments sacrés qui subsistent encore de nos jours sur l'emplacement de ces richesses en eau disparues témoigne de la justesse de mon hypothèse. Donc en fait, il nous décrivait simplement le fait que quand on utilise mal les sols, on crée des catastrophes et on peut aller en Attique maintenant, c'est une jolie région touristique de la Grèce, et on trouve des sols qui ont eu du mal de se reconstituer.
Voilà, parce que la suppression des forêts aussi.
Exactement.
La surexploitation des
exactement.
Forêts.
Exactement. Et donc là, la disparition en fait des forêts, des vergers et des riches pâturages, comme le disait Platon, a entraîné en fait une érosion des sols. Et le sol se recrée difficilement. Alors ça, c'est une variable importante par rapport à l'histoire. C'est que quand on a détruit un sol, il faut des siècles et des siècles pour le reconstruire.
Alors,
des dizaines de siècles.
Je te coupe un peu. J'ai entendu parler, j'ai vu dans mes recherches. Donc, il y avait en Chine des vallées entières qui avaient été replantées, reforestées pour justement reconstituer les sols. Et surtout, restaurer un climat, puisque effectivement, l'humidité qui est maintenue à travers la forêt donc, permet de reconstituer un climat. Donc, pas très loin de nous, dans tout le sud de la France, en fait, on a des zones qui vont vers un statut quasi désertique et qui mériterait peut-être des efforts. Alors la Chine a les moyens politiques peut-être de décider de faire les choses qu'on n'a pas en France. Mais bon, effectivement, après, c'est tout le domaine peut-être du développement de l'agroforesterie dans ces régions-là.
Complètement. Alors ce qui pour moi est intéressant, donc deuxième phase d'histoire, c'est qu'on sait quoi faire. C'est-à-dire que donc le texte que je viens de lire de Platon a quand même été écrit en 400 avant Jésus-Christ, donc ce n'est pas aujourd'hui. Mais depuis, on sait quoi faire. Quand vous regardez les très belles illustrations des très riches heures du duc de Berry, qui en fait montraient comment bien faire à l'époque. Voilà, comment un des ducs les plus puissants illustrait ce qu'était une bonne utilisation du territoire. Eh bien, on observe que le long de tous les cours d'eau, il nous dessine, il nous peigne de superbes prairies avec de superbes rideaux de saules qui était traité en têtard d'ailleurs parce que le saule têtard produisait l'osier. Et à l'époque, l'osier, c'était la seule matière permettant de faire tout ce qui permet de stocker et de transporter les matières. Alors que ce soit les cailloux, le sable, les grains, les fruits, les patates, tout se stockait à l'époque dans des paniers en osier. Et c'est un usage qui a deux avantages, c'est qu'on n'utilise pas, mais à l'époque ça n'existait pas, de plastique, donc de pétrole. Deuxième avantage, ça permet d'entretenir des arbres qui sont très utiles parce que ces arbres tiennent les bordures de rivières et de ruisseaux. Et donc, dès l'époque, on savait, et on peut le reproduire quand on veut maintenant, que l'alliage entre prairies et arbres, que je ne vais pas appeler des forêts, hein, je veux dire des saules têtards en bordure de rivière, c'est absolument pas une forêt. Enfin, je veux dire, Francis Allais nous a quittés, mais il était très, très, très strict ça sur ce qu'est une forêt. Donc là, c'est plutôt une plantation d'arbres. Mais c'est une plantation d'arbres qui stocke du carbone, qui, avec la prairie à côté, continue de stocker du carbone. Et le point important en termes d'évolution historique, c'est d'avoir en tête que plus, du côté agricole en tout cas, plus les surfaces de prairie permanentes sont importantes, plus les surfaces capables de stocker du carbone sont importantes. Parce qu'en fait, on a une différence très nette entre toutes les surfaces conduites en culture, même si on peut voir des petites différences entre les cultures, et les surfaces conduites en prairie, où là, il y a une très grosse différence. Et donc, sur le sujet de ce jour, la deuxième phase historique que je voudrais là mettre en avant, c'est l'intérêt des prairies permanentes. Alors, l'inconvénient des prairies permanentes, donc elles sont très bonnes pour l'environnement, et puis en plus, elles sont très bonnes pour les abeilles, parce qu'il y a des fleurs dedans, voilà, je n'insiste pas, mais elles ont un inconvénient, pour un certain nombre de régimes alimentaires, c'est que la prairie permanente, eh bien, elle ne peut être transformée en quelque chose de mangeable pour les humains que par des animaux. Et dans toutes les civilisations du monde, les prairies, alors, on peut prendre la grande prairie américaine avec les bisons, hein, mais ce sont bien les bisons qui ont tenu les Indiens américains. Et Buffalo Bill l'a compris, c'est en tuant de nombreux bisons qu'il a tué la civilisation indienne pour que la civilisation, entre guillemets, moderne, puisse s'implanter dans ces énormes prairies américaines.
Voilà, il y a des régions, par exemple les régions de savane, où finalement, donc effectivement, il y a un équilibre entre forêt et prairies, mais les herbivores y ont un rôle. Dans nos régions tempérées, on va dire que si on laissait tout faire, il y aurait de la forêt partout. Donc du coup, si on veut avoir des prairies permanentes, il faut qu'il y ait effectivement des herbivores qui empêchent les arbres, qui entrent en compétition avec les arbres en broutant les bastiges, enfin, etc.
Absolument. Et avant de rentrer plus en détail sur les solutions qui permettraient d'aller plus loin, ça veut dire que ce qui serait très bien dans notre pays, par exemple, c'est de commencer par dire un élevage prioritaire, c'est l'élevage sur prairies permanentes. Et on ne développe d'autres formes d'élevage que quand cet élevage-là a déjà, fourni fromage, lait ou viande aux humains intéressés par ces produits. Par exemple, moi, je trouve que de cultiver des plantes très, très sophistiquées qui ont besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'apports en engrais et autres, comme le maïs, souvent. Et de compléter le maïs par des apports de protéines qui viennent du Brésil, ça s'appelle le soja qui vient chez nous avec des gros cargos, pour faire de l'élevage, je lui dis d'abord on fait de l'élevage à l'herbe. Et seulement, dans un deuxième temps, de l'élevage que je vais appeler très sophistiqué à partir de plantes que je pourrais moi manger. Le maïs grain va très bien.
Après, on va dire que l'agriculture, effectivement, sans aller jusqu'aux rigideurs du duc du Berry, donc l'agriculture d'il y a une centaine d'années, utilisait les ressources locales, essentiellement de l'herbe, et qui avait effectivement tout ce qu'il fallait pour nourrir des animaux et avoir un cycle complet. Voilà. Après, Donc, on rentrera peut-être un peu plus tard dans cette histoire de, finalement, notre rôle. Après, l'élevage de poules extensif est aussi tout à fait favorable au maintien de prairies permanentes, à condition qu'on gère bien la rotation, hein, comme pour tous les herbivores. C'est-à-dire qu'effectivement, si on les laisse surexploiter, donc il faut effectivement avoir une rotation rapide. Voilà. Donc, Lou nous propose une pause musicale, donc on y va, Lou. Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. But they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of streets of Minneapolis. Voilà, donc nous reprenons. Donc Marc Benoît, notre invité d'aujourd'hui. Alors on en était à la prairie permanente qui stocke du carbone.
Oui, alors dans les couverts végétaux sur notre petite planète, donc après la forêt, et quelquefois à égalité avec la forêt, la prairie permanente est le couvert qui stocke le plus de carbone par surface. Alors, bon, ceci est dû à deux raisons principales. La première, c'est qu'on a des couverts prairiaux, donc des couverts de végétaux qui sont là tout le temps et qui, pendant leur croissance, ont des croissances donc, aériennes, alors qu'ils peuvent être consommés ou qui meurent pendant l'hiver un peu, mais surtout ont des croissances racinaires qui continuent à être permanentes. Et ça, c'est vraiment important.
C'est-à-dire oui, parce que c'est contrairement en fait, aux cultures annuelles, par exemple, qui, effectivement, chaque année, donc, meurent et sont renouvelées. Donc, du coup, n'ont pas le temps de développer des racines profondes, etc.
Et voilà. Et on a une autre régulation que je trouve assez extraordinaire. C'est que les bactéries qui consomment la matière organique du sol pour la transformer en petits éléments dont vont profiter tous les êtres vivants des sols, et bien ces bactéries commencent à travailler quand il fait un peu doux. Bon, vers 6 degrés, quand le sol commence à se radoucir, les bactéries travaillent. Donc elles commencent à consommer le carbone.
Surtout mais, au printemps et voilà. À l'automne.
Et donc c'est pour nous, ça commence au printemps et puis ça va se terminer à l'automne à des dates variables parce que... qui dit changement climatique, dit aussi un peu d'aléas en ce moment assez marqués. Et donc ces 6 degrés ont aussi l'avantage d'être les mêmes conditions de température qui permettent à la prairie de se porter bien et de grandir. Et donc à chaque fois que j'ai libération de carbone ou d'autres éléments comme l'azote sous forme de nitrate pour les végétaux, pour les racines végétaux, eh bien j'ai aussi en même temps croissance foliaire de la prairie. Et donc, cette croissance foliaire, elle fait quoi ? Eh bien, par la photosynthèse, les feuilles des prairies récupèrent le CO2 atmosphérique pour le transformer en tiges, en feuilles, en graines, en choses qui feront une plante qui va grandir pendant toute la saison de croissance. Et donc, on a non seulement en bilan global, on a plutôt un bilan global très bien équilibré, mais en plus... Au cours du temps, à chaque fois qu'on a des occasions de dégagement important de CO2 ou d'autres éléments via la vie bactérienne des sols, on a sur les prairies permanentes captation du CO2 atmosphérique et stockage de ce carbone. J'allais dire, saison après saison, la régulation est parfaite jusqu'à... Alors, passons à l'hiver, nous sommes encore en hiver. Les bactéries ne travaillent pas parce qu'il fait trop froid et les prairies ne travaillent pas, mais ce n'est pas grave, il fait froid. Et donc, ce que les bactéries n'émettent pas, les prairies ne le captent pas.
Oui, globalement, le bilan est à zéro.
Donc, le bilan, voilà. Et donc, c'est une régulation, j'allais dire, du fonctionnement des bactéries des sols avec le fonctionnement de la croissance des végétaux qui permettent vraiment une très bonne efficacité des prairies permanentes pour capter le carbone atmosphérique.
En plus, dans les prairies permanentes, il y a une biodiversité importante. Alors, je ne parle pas forcément de la biodiversité animale, mais même au niveau végétal, il y a plusieurs types de plantes, avec en particulier des plantes qui fixent aussi l'azote, hein, qui sont capables, comme les légumineuses, hein, le trèfle, etc., capables d'absorber l'azote atmosphérique et de l'amener au sol pour y apporter de la richesse, parce qu'effectivement, pour que les plantes puissent capter le carbone, il faut aussi qu'elles aient les autres nutriments, donc comme par exemple, effectivement, l'azote. Alors l'azote, c'est pas forcément le nitrate apporté par les engrais qui risque de fuir dans les nappes phréatiques, mais plutôt donc un autre type d'azote qui, lui, est effectivement transformé par justement un certain nombre de plantes et la biodiversité végétale des prairies permanentes permet cet équilibre-là.
Complètement. Et on l'a vu donc, quand l'unité expérimentale Mirecourt a choisi le mode d'exploitation en agriculture biologique donc, il y a maintenant une vingtaine d'années, on a vu que la flore des prairies effectivement basculait de plus en plus vers une flore équilibrée avec une montée en puissance des légumineuses. Parce que moins on apporte d'azote extérieur humain, j'allais dire, sous forme d'ammonitrate, d'urée, dans les prairies, eh bien plus les plantes qui elles-mêmes fixent l'azote de l'air par la superbe synthèse d'accord entre
la symbiose, oui,
et
symbiose
les petites avec les bactéries et les racines de ces légumineuses, fixent l'azote de l'air totalement gratuitement. Et elles sont d'autant plus efficaces qu'elles ne sont pas concurrencées par les autres plantes qui, elles, sont capables de faire ça, mais qui apprécient l'azote minéral qu'on leur apporte. Et l'autre point qui est important sur la biodiversité, par contre, ça a été beaucoup travaillé par des collègues comme Marc Antré, Sélos et plein d'autres qui travaillent sur le sol, c'est l'énorme biodiversité de la vie dans les sols. C'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle l'essentiel de la vie sur Terre, c'est la vie dans la terre, c'est-à-dire entre différents lombriques, mais toutes les familles des vers de terre, les colamboles et les masses de vie bactériennes et les masses de vie fongiques de tous les champignons qui ont le temps justement de bien se développer dans des sols de prairies permanentes, beaucoup plus que dans des sols de culture, enfin... Tout le monde sait très bien que pour aller chercher des rosées, on va chercher des rosées des prés et pas des rosées des colzas, quoi.
Il faut dire que les bactéries, on n'y pense pas souvent, mais en fait, on a dans notre organisme plus de bactéries que de cellules humaines.
Nous sommes aussi des masses de bactéries comme le sol.
Voilà.
Exact.
Voilà.
Et donc, ces prairies ont l'avantage donc, de stocker du carbone, de le bien stocker au cours de l'année et aussi d'accompagner... et d'être des hôtes pour une biodiversité absolument remarquable. Et en fait, c'est cet équilibre très complexe. Alors complexe, je veux simplement dire qu'il y a beaucoup de relations entre plein d'organismes vivants. Voilà. Et donc là, je rends hommage aux collègues qui travaillent dessus. C'est beaucoup plus difficile à comprendre que quand on a un système simple à 3-4 éléments qui interagissent. Là, on a des milliers, des dizaines de milliers d'êtres vivants qui réagissent en fonction de leur propre capacité, de leur propre physiologie, de leur propre rythme de vie.
Et tout ça, donc, est détruit, hein, au moins en grande partie, par la mise en culture. Hein, et donc, l'extrême, c'est effectivement, on parlait des champs de maïs, l'extrême, c'est la culture intensive qui est... basé sur du labour, hein, qui est le labour, donc détruit les sols quand il est profond en particulier. Peut-être moins le labour superficiel comme il se faisait autrefois à l'époque où on avait une traction animale, on labourait sur 15-20 cm. Maintenant, on laboure beaucoup plus profond. Hein, donc du coup, le labour profond avec en plus des cultures annuelles qui laissent le sol nu pendant toute une période, c'est l'ennemi des sols. C'est la destruction des sols qui font que finalement ces sols vont libérer le carbone qu'elles contiennent. Et en plus, donc, chaque année, ce stock de carbone va s'épuiser de plus en plus, de carbone et aussi d'autres nutriments.
Alors, il est clair que les pratiques actuelles, parce qu'elles changeront encore, hein, les pratiques actuelles de conduite des cultures annuelles, effectivement, on a des équipements de plus en plus importants parce que les moteurs deviennent de plus en plus puissants, les roues adhèrent de mieux en mieux, les charrues deviennent de plus en plus larges en termes de travail, on monte de plus en plus de socs pour aller vite. Et ce travail-là a deux conséquences qui sont très tendues, je vais dire ça, y compris pour les agriculteurs qui sont à la tâche et ce n'est pas facile. C'est que plus on a de l'équipement gros, intensif, plus on va avoir à le rembourser au cours du temps et plus c'est tendu en trésorerie. Voilà. Et ça, donc, on sait très bien que les investissements sur des équipements très coûteux à l'heure actuelle rendent des trésoreries agricoles très, très complexes parce que le prix des produits agricoles ne suit pas forcément le prix des tracteurs. Hein. Et le deuxième point sur cet agrandissement de matériel, c'est que plus on a un matériel de grande taille, de grande capacité, donc des charrues qui peuvent travailler large et profond, plus on va être aussi tendu en termes de jours disponibles. C'est-à-dire que ce sont des équipements qui, eux-mêmes, quand le sol n'est pas parfait à prendre, on peut travailler dans des conditions qui vont dégrader le sol. Et les tassements de sol par rapport à ce qu'on évoque aujourd'hui, donc comment mieux stocker le carbone dans les sols, il faut que les racines soient en bon état. Or, le tassement des sols n'est pas idéal du tout pour permettre des enracinements puissants. Et la deuxième conséquence qui n'est pas favorable du tout pour la vie des sols et pour le stockage de carbone au niveau planétaire, c'est que les labours profonds entraînent une dilution de la matière organique. Et ce n'est pas une dilution au sens elle s'en va, mais c'est simplement, au lieu d'être un taux de 4% sur les 10 premiers centimètres, eh bien, elle tombe à 1,4% sur les 28 centimètres labourés quand on laboure
très profond. Oui, parce qu'on laboure profond, donc on mélange.
Exactement.
Hein, voilà, là où autrefois, avec les arrères et le labour plus superficiel, parce qu'on n'avait pas des engins puissants, parce qu'on n'avait que des animaux. Donc, du coup, on ne mélangeait que les 15 premiers centimètres qui sont déjà riches en matière organique. Hein, on ne les mélangeait pas avec le substrat inférieur qui, lui, est plus pauvre, effectivement.
Absolument. Et pour finir sur cet aspect agricole, il est clair, et je parlais tout à l'heure de trésorerie, je pense que il serait bien, mais on va passer après au comportement des citoyens, il serait quand même très efficace que les agriculteurs qui travaillent bien pour produire des choses à partir de la prairie permanente en élevage gagnent plus.
Oui, c'est des services, services environnementaux rendus.
Que ceux qui produisent du lait avec des protéines soja importées du Brésil. Voilà. Donc, on vient de parler du Mercosur. Et donc, tous les éleveurs qui peuvent écouter cette émission savent quand même que si jamais on importe du soja pour faire notre lait, il serait quand même bien de faire notre lait avec nos prairies, quoi.
Voilà. Après, on parle par exemple de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique ne signifie pas forcément l'abandon des labours.
Hein. Complètement.
C'est des pratiques. Donc, par contre, se développent quand même, malgré tout, par exemple, des semis sur culture sur couvert végétal. Hein. Donc, il y a des choses qui avancent. Hein. Alors, on peut espérer des nouvelles générations. Après, le problème, il est effectivement comment on encourage ces pratiques à travers, en particulier, une politique agricole commune qui est gérée en France. Allez, on ne va pas trop critiquer le système de gestion de la politique agricole commune, mais qui ne fait pas très beaucoup avancer les choses, quoi. On va passer avec une deuxième pause musicale. Merci Lou.
Bien incapable. des médecins pour sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà, petit mystère, te laisse une main. C'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. On remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Voilà la chorale Scala, donc un petit peu de chorale, c'est assez rare, mais voilà. Il faut que tu respires, hein, respire effectivement. Donc tout ça, c'est quand même pour avoir une atmosphère respirable. Hein. Effectivement, avant que le charbon et le pétrole ne stockent du carbone, on avait une atmosphère qui était irrespirable, saturée en gaz carbonique. Hein. Donc là, on relibère du carbone qui a été stocké. Donc on déstocke à travers les combustions fossiles. On déstocke du carbone qui a été stocké à une époque qui nous a rendu effectivement la terre hospitalière. Mais donc là, on est en train de repartir. Donc, dans des conditions qui risquent d'être difficiles pour plein de choses. Donc, les sols et la manière dont l'homme gère les sols, puisqu'en fait, il gère la planète comme si elle était entièrement la sienne, non pas celle de ses enfants. Donc, du coup, voilà. Donc, Marc, on va poursuivre donc avec... cette richesse des sols, ce stockage du carbone.
Et donc, ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, bon, on a essayé de le transcrire dans un livre avec d'autres exemples hein, qui s'appelle « L'embellie du paysage à l'intérieur du collectif des paysages de la paix pétrole », c'est d'essayer d'illustrer des exemples qui nous semblent intéressants à développer pour vivre le plus possible maintenant. Dans une planète qui se sera quand même déjà réchauffée, mais qui essaye de limiter le plus rapidement possible les effets négatifs. Et donc pour cela, si je reprends les dimensions agricoles, on a trois, donc c'est assez simple, on a un clavier simple. Hein. Le premier clavier, c'est la sobriété. Donc il faut utiliser en fait une agriculture qui utilise le moins possible d'énergie fossile. Alors juste... Un point qui est très, très sensible pour l'agriculture sur les énergies fossiles, ce sont les engrais azotés. Les engrais azotés de synthèse, nécessitent de très grosses quantités d'énergie pour être fabriqués. Et quand un kilo d'ammonitrate est dans un sac, ou après est pendu dans une parcelle, il a fallu 10 litres d'énergie fossile pour le fabriquer. Et donc, on ne se rend pas compte, parce que c'est simplement des petites billes faciles, qu'avant cela, ce sont des processus industriels très importants. D'ailleurs, un des plus grands producteurs à l'heure actuelle de ces engrais azotés reste la Russie, parce qu'elle a des énergies fossiles pas chères à disposition. En plus, la sobriété est pour moi, en tant qu'agronome, la première entrée pour tenter... de réduire la quantité d'énergie fossile déjà utilisée par l'agriculture.
Voilà. Voilà. Surtout que, en plus, ces engrais azotés, finalement, dans leur vie, ensuite, dégagent donc du monoxyde d'azote.
Qui, pour l'atmosphère, n'est pas génial.
Ou un très gros gaz à effet de serre, beaucoup plus puissant que le CO2.
Hein. Ou dégage du nitrate
qui pollue le sol.
Et qui pire que ça, parce que là, on est en période de préparation des futurs électifs municipaux qui font des stress incroyables à tout un tas de maires de France qui sont en charge de la qualité de l'eau pour leurs concitoyens. Et quand ils voient les teneurs en nitrate, eh bien, ce sont des maires qui, en ce moment, ne sont pas sereins du tout. J'espère que ça ira mieux pour les prochains, mais il faudra être très vigilant. Donc ça, c'est la première dimension de sobriété. Comment faire en sorte que les processus de production qu'on met en place dans l'agriculture intègrent le moins possible d'énergie fossile au départ. Ensuite, le deuxième point, c'est de comment faire pour que dans les pratiques agricoles, on mette en place des pratiques qui gèrent le mieux possible le stockage de carbone qui est déjà en excès dans l'atmosphère. Donc qui, en fait, vise à dire comment ramener du CO2 qui est là-haut, au-dessus de nous, autour de nous et qu'on respire tous les jours, le ramener dans des feuilles. Donc les forêts sont un très bon puits de carbone. Alors, il ne faut pas non plus les malmener trop. Il ne faut pas qu'elles aient trop de sécheresse, trop d'incendies. Enfin, voilà, parce qu'elles stockent bien tant qu'elles vont bien, quoi. Hein.
Voilà, parce qu'une forêt naturelle qui arrive à son équilibre, ben finalement, en fait, elle équilibre l'absorption et le dégagement de carbone. Hein. Donc, finalement, en fait, c'est un stockage de carbone, mais ça ne recapte pas en plus. Hein. Et une forêt qui est en mauvaise santé, à cause, par exemple, du changement climatique et de la sécheresse à certaines périodes qui bloquent la croissance, eh ben, cette forêt qui est en mauvaise santé, elle va dégager du carbone hein, plutôt que d'en stocker. Elle n'en stockera plus. Hein. Donc, du coup, la forêt, ben, ça nécessite effectivement de gérer les choses. On fera une émission de nouveau là-dessus parce qu'effectivement, les espoirs de la France qui étaient de mettre dans la forêt la compensation des émissions de carbone de la France, on s'aperçoit qu'avec le réchauffement des dernières années, cet objectif ne sera sans doute pas atteint. Donc revenons à nos sols.
Et donc pour revenir à la sobriété, eh bien, toute forme d'agriculture qui n'utilise pas par exemple d'engrais azotés de synthèse est favorable. Voilà, parce qu'on n'utilisera pas beaucoup de... On utilisera moins, beaucoup moins d'énergie fossile pour faire tourner l'agriculture. Le deuxième point, ce sont donc des pratiques permettant petit à petit de stocker plus de carbone atmosphérique. Donc j'ai déjà évoqué les prairies permanentes qui ont l'avantage de faire beaucoup de surface, qui ont l'avantage d'être bien maîtrisées par de très nombreux agriculteurs français, européens ou dans le monde. Enfin, les surfaces de prairies et de steppes sont très importantes dans le monde. Donc voilà, faisons confiance aux agriculteurs pour les mener au mieux, ces surfaces de prairies permanentes.
Et qui permettent aussi d'entretenir les paysages, hein,
puisqu'on parle des paysages. Et qui en plus créent des paysages. Oui, si les agriculteurs touchaient... je vais prendre les agriculteurs du deuxième plateau du Jura, comme ça je ne prendrai pas les Vosgiens. Si ces agriculteurs jurassiens touchaient des royalties... des touristes qui viennent dans le Jura parce que c'est joli et que pour faire du ski de fond, ces prairies, c'est quand même génial, bon, ils seraient un peu plus riches. Je ferme la parenthèse. La deuxième pratique importante, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, ça veut simplement dire planter des arbres dans des zones agricoles. Alors il y a deux formes très, très simples. Hein. Il y a l'arbre planté dans les parcelles. Alors, si on veut un exemple typique, eh bien, c'est l'exemple de la pomme à cidre du verger normand.
Voilà, des vergers.
C'est-à-dire, on voit bien les pommiers, ils sont là. Après, ils font du cidre, c'est pas mal. Et en dessous, y a des vaches qui profitent de l'herbe qui pousse sous le verger.
Donc des noyers, des châtaigniers,
ça peut des noyers,
voilà. Même de la vigne.
L'agroforesterie, si jamais on en parle du côté de Grenoble, ils nous parleront que des noix. Ou du côté du Périgord, pardon pour les Périgourdins qui nous écouteraient, voilà. Et donc on a déjà des pratiques qui existent et il s'agirait juste de les étendre. Donc de ne pas avoir peur de reproduire beaucoup de fruits en agroforesterie, y compris en mêlant ces productions. Un collègue, Christian Duprat, à l'INRA Montpellier, il y a beaucoup travaillé en mêlant ces productions d'arbres au milieu de cultures.
Voilà, le gros problème en fait, de l'évolution de l'agriculture, ça a été d'aller vers la monoculture. Hein, le problème, c'est la spécialisation. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans en arrière, effectivement, il y avait des arbres dans les prairies, il y avait des haies, hein, donc on en parle sûrement. Et tout ça a été bouleversé parce qu'en fait, effectivement, celui qui fait des fruits ne fait que des fruits et il s'occupe finalement beaucoup moins du sol. Celui qui fait de l'élevage ne s'occupe que d'élevage. Celui qui fait de la céréale ne s'occupe que des céréales. Et ça a été la spécialisation qui a finalement démoli la polyculture qui était autrefois la règle.
Et là-dessus, nous chercheurs, enfin, un collègue, Jean-Marc Ménard, a beaucoup travaillé là-dessus. On s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu de prime à faire des choses variées. Enfin, je veux dire, je prends l'exemple des classes. Quand il y a des classes uniques, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'élèves parce que c'est un peu plus difficile à mener quand j'ai quatre niveaux d'enfants qui n'ont pas les mêmes compréhensions que quand j'en ai un seul. Voilà. Et ben pour les agriculteurs, on n'a jamais mis une prime à la diversité. Or, ça devrait être important. Et en dehors donc de mettre des arbres de plein champ, on peut bien sûr, comme tu l'as dit, mettre des arbres, des arbustes, et puis les herbacées qui poussent en dessous alignées. On appelle ça des haies. Et les haies, ça fait des bocages quand elles sont très nombreuses. Et ces haies-là ont l'avantage d'être très, en ce moment, très en danger dans notre pays. Alors là, c'est un point sur lequel il faut être très attentif. Donc, on avait des haies qui étaient utiles pour un certain nombre de fonctions, en particulier d'élevage. Maintenant, il faut qu'on mette en place des haies qui soient utiles pour lutter contre le changement climatique. Donc, il faut qu'on mette des haies climatiques. Point.
Voilà, qui
et de
sont
très
capables
nombreuses.
De capter du carbone.
Absolument.
Donc, des haies qui peuvent aussi servir, donc, non seulement pour limiter les parcelles, mais aussi pour l'usage du bois, de la matière qui est stockée dans les haies, donc avec, effectivement, une diversité de basses tiges, de hautes tiges, éventuellement, qui peuvent ensuite faire peut-être même du bois de construction.
Hein. Et ça ne fera pas de mal à la biodiversité, car ces haies donneront des abris à des animaux qui, en ce moment, de temps en temps, doivent parcourir un kilomètre avant de trouver un abri. Et ça, c'est pas facile quand le champ est grand et que vous avez le renard aux fesses.
Ensuite, ça fait partie des trames vertes, des couloirs
Absolument.
De biodiversité. Après, il faut savoir aussi que la haie en elle-même constitue un écosystème qui transmet aussi le carbone qu'elle stocke via les vers de terre, etc., à la parcelle cultivée qui est à côté.
Et l'exemple qu'on a mené à Villarceau, qui est une grande ferme, la bergerie de Villarceau, qui a essayé donc, depuis maintenant 23 ans cette plantation de haies dans le plateau du Vexin, un exemple qui marche remarquablement bien, tant en termes de biodiversité qu'en termes de stockage de carbone et en termes de restitution des éléments par la chute des feuilles de ces arbres maintenant devenus grands. Quoi.
Voilà, et puis aussi les pollinisateurs, enfin tout un tas de choses, tout cet écosystème. Donc on va passer à notre troisième pause musicale. Merci Lou.
Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains. Ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence. Ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursouffle, on ne distingue plus le front, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites, leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices. Et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. mais près de moi vit une humaine. Je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils sont étranges ces humains. Quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère. Si elles vont regagner leur lit après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde. Moi je sais qu'elles correspondent, et quand la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils se battent comme des chiens. Ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges, comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils s'improvisent magiciens. Ils déracinent et ils bétonnent, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient. Bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place. Pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains. Ils seront encore là, j'espère, quand mes eaux redeviendront claires et que se poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi, cette humaine ait traversé l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau.
Voilà, merci Lou, merci Anne-Sylvestre. Et donc, on en était aux trois leviers sur l'agriculture, la sobriété, la pratique, les pratiques avec prairie permanente, agroforesterie, vergers, les haies. Et du coup.
Et la toute dernière consisterait à proposer aux agriculteurs de suivre de façon très attentive les teneurs en matière organique dans leur sol. Et je propose, alors j'espère que de futurs députés sont à l'écoute, je propose que dans une loi agricole soit inséré le fait suivant, que des agriculteurs puissent gagner beaucoup mieux leur vie parce qu'ils auront stocké du carbone. C'est-à-dire que les célèbres droits à carbone ou taxes carbone qui circulent sur la planète se retrouvent dans le portefeuille des agriculteurs. Dit autrement, que ceux qui font très bien, que celles et ceux qui font très bien pour stocker du carbone et pour nous aider tous ensemble sur cette planète Terre à diminuer les impacts du changement climatique, qui impacte d'ailleurs majoritairement et en priorité malencontreusement les agriculteurs, et bien que ceux-là sont mieux payés.
Voilà, le sol, ce n'est pas qu'une route macadam qu'on marche. Effectivement, le sol, c'est le sol vivant qui participe à notre vie, à notre écosystème, à tous. Donc, plus de carbone, moins de nitrate dans les sols. On ne va pas parler des PFAS.
Mais... Non, mais voilà, ça irait mieux, beaucoup mieux. Et là, maintenant, je vais basculer sur l'aspect sociétal et des citoyens. Donc là, je viens d'évoquer les élus, mais c'est vrai que toutes nos pratiques humaines à tous les citoyens qui ne sont pas agriculteurs, mais qui utilisent, bien sûr, en mangeant tous les jours de très bons produits agricoles, ben, il est clair que si les actes d'achat pouvaient récompenser, par exemple, que le lait à l'herbe soit mieux payé que le lait au soja du Brésil, ben, ce serait bien. Que le steak à l'herbe coûte moins cher à tout acheteur de steak parce que il aurait été conçu par un ruminant qui aurait consommé de la prairie permanente au lieu de consommer du soja importé.
Et si possible en circuit court.
Ce serait pas grave parce que la prairie permanente peut pousser à peu près partout. Là où on fait de beaux maïs, je promets à tout le monde, on fait de très belles prairies. Mais pour cela, il y a deux points qui manquent. Le premier, c'est des régulations financières. Et le deuxième, si je me mets à la place des citoyens, c'est un affichage. Oui. C'est-à-dire que personne à l'heure actuelle ne peut savoir comment a été produit le beurre qu'il vient de consommer à son petit déjeuner.
Voilà, quoi. Sauf si effectivement il l'achète, donc produit localement dans une ferme qu'il connaît.
Exactement.
Etc.
Mais ça fait trop peu de quantité si jamais on veut vraiment changer l'ensemble de nos paysages au sens très global. Quoi. Et le deuxième point, alors là, qui est pour chacun d'entre nous. Eh bien, plantons. Ceux qui adorent les noisettes, plantent des noisetiers. Ceux qui adorent les noix, plantent des noyers. Ceux qui adorent les framboises, plantent des framboisiers. Plantons des végétaux permanents dans nos jardins,
Et
nos
incitons
terrains.
Nos élus, qui bientôt donc seront nouvellement élus, incitons les élus à planter sur les espaces publics.
Complètement. À planter les espaces publics. Et puis, je parlais tout à l'heure des consommateurs. Ben, c'est vrai que si dans les cantines scolaires, les élus arrivent à obtenir que les produits sont faits avec, si on prend les produits animaux, des prairies permanentes issues d'agriculteurs à côté ou des produits d'agriculture biologique, comme c'est demandé dans la loi, qui n'utilisent pas d'engrais azotés de synthèse et qui donc ne vont pas utiliser des énergies fossiles pour fabriquer ces engrais azotés de synthèse, eh bien, les élus auront contribué comme ça à notre lutte collective contre le changement climatique et à régler un peu nos soucis avec le dioxyde de carbone.
Voilà, donc on arrive au terme de cette émission, donc avec effectivement, faut s'occuper de nos sols. Donc après les sols, là on a parlé beaucoup d'agriculture, mais c'est aussi chacun dans son jardin à veiller au couvert végétal. Alors après, donc on a parlé très rapidement du maraîchage, on a évoqué le maraîchage, mais donc le maraîchage et tout ce qui est culture, donc pour nous nourrir, ça veut dire qu'on exporte des sols, de la matière, hein, donc du carbone, de l'azote, etc. Et après, il faut le restituer. Donc le restituer au sol, ça veut dire dans son jardin, bah, plutôt que de mettre de l'engrais, eh bien, on va faire du compost, on va y mettre donc, déjà tous les végétaux, tous les rejets, tous les déchets végétaux. Quand on mange une salade, bah, on laisse la racine dans le sol. Ça veut dire que, bah, effectivement, même on peut restituer nos rejets de matière organique. Hein, donc après, les Chinois, par exemple, collectent les urines pour aller nourrir leur sol agricole. Bon, après, chacun peut le faire, à condition qu'effectivement, qu'on n'ait pas de médicaments et d'autres molécules qu'on veut quand même éviter de répandre dans les sols. Et c'est aussi pour les gens qui habitent en ville, ben, les possibilités d'agriculture urbaine, hein, avec effectivement le compostage des déchets organiques qu'on peut réutiliser localement sans qu'on aille chercher de la matière organique à des kilomètres pour venir enrichir le sol urbain, hein, qu'on veut utiliser. Voilà, donc du coup, cette émission arrive à sa fin. Bonne continuation à vous. Merci Marc Benoît.
Merci.
De ta présence. Merci Lou pour la technique. Au revoir, à une prochaine.